c'est pas la fin du monde, dis-le moi. S'il te plaît, dis-le moi. C'est pas la fin du monde, rassure-moi. Pas déjà l'hécatombe de si bon matin. C'est pas la fin du monde, dis-le moi. S'il te plaît, dis-le moi. C'est pas la fin du monde, rassure-moi.
Radio G 101.5 FM.
Bonsoir et bienvenue dans Pouce Classique, l'émission consacrée à la musique classique avec tous les genres, tous les styles et toutes les époques. Sur les ondes de Radio G et sur les ondes de l'autre radio, nous continuons notre tour d'exploration des différents albums, des sorties CD de la semaine. Nous continuons à vous faire partager nos coups de cœur. Et justement, on va débuter l'émission ce soir, profiter entre guillemets de cette période de confinement pour réviser certains classiques et pour découvrir des interprètes hors pair. On part ce soir avec la célèbre sonate de Debussy, sa suite Bergamasque, et nous allons entendre plus précisément le clair de lune. Le clair de lune qui a été de nombreuses fois utilisé en musique de film. Il faut pourtant la rétablir. Elle est bien de Debussy. On écoute ce célèbre clair de lune sous les doigts du pianiste russe Nikolaï Louganski.
Thank you.
Masque de Claude Debussy sous les doigts du pianiste russe Nikolai Luganski. C'est un disque qui était sorti en 2018 sous le label Harmonia Mundi dans leur collection Focus et qui permettait d'entendre donc l'intégrale de cette suite Bergamas par le pianiste Nikolai Luganski. Le pianiste Nikolai Luganski fait partie de ces prodiges du piano qui a même été déclaré comme le digne héritier de la grande école des pianistes russes par sa professeure et mentor Tatiana Nikolaeva. C'est ce que nous disent nos confrères de France Musique. C'est un pianiste très précoce. Il fait preuve de dons remarquables, exceptionnels pour le piano, qu'il commence à l'âge de 5 ans, avant même de savoir lire la musique. À 7 ans, il entre à l'école centrale de musique de Moscou. Puis, à 16 ans, il donne son premier récital dans la salle Tchaïkovski à Moscou. À partir de 1988, il va accumuler les récompenses, premier prix au concours de l'Union soviétique, médaille d'argent du 8e concours international Bach de Leipzig, second prix du concours Rachmaninov de Moscou. Bref, vraiment une collection très importante. La carrière de Nikolai Luganski est définitivement lancée lors de la tournée qu'il effectue en 1996 avec l'orchestre du Kirov et Valérie Gergiev à la direction. Il va se produire avec les plus grandes formations orchestrales sous la direction de très très grands chefs, eux aussi russes. On pense notamment à Vladimir Spivakov, à Yevgeny Svetlanov. Et puis en musique de chambre, il va jouer avec ses compères que sont le violoniste Vadim Ripin ou encore le violoncelliste Misha Maïski ou Alexandre Kniachev. En 2004, il vient jouer en France, à la Grange de Mellet, au Festival de Radio France Montpellier, ainsi qu'à la Roque d'Anthéron. Son répertoire est vaste, de Bach à Debussy, en passant par Mozart, Beethoven et Liszt. Voilà un répertoire de Bach à Debussy, on vient l'entendre justement dans ce troisième mouvement de cette suite bergamasque de Claude Debussy. Une suite bergamasque qui a été composée dans les années 1900. Elle a été publiée au catalogue en 1905. Elle comporte quatre mouvements, le prélude, menuet, clair de lune et le passe-pied. Leur clair de lune est sans doute très largement inspiré d'un poème de Paul Verlaine intitulé « Le clair de lune ». Les plus grandes parties de cette pièce sont jouées dans des nuances allant du piano au pianissimo. Et vous l'aurez compris, nous sommes là en pleine époque impressionniste, avec aussi une grande intensité émotionnelle. Au cinéma, nous vous le disions, la musique a souvent été utilisée, à commencer par les films de Walt Disney, et puis ça apparaît également dans 7 ans au Tibet, ça apparaît dans Ocean's Eleven, ça apparaît dans la fameuse suite de Twilight, et puis à la télévision, ça apparaît même dans South Park, dans Skins, à la publicité aussi, on ne citera pas les marques. Bref, ça a à chaque fois beaucoup inspiré les réalisateurs qui ont voulu la voir en soutien de leur image. Mais comme je vous le disais, ce clair de lune est bel et bien tiré de la main, issue de la main du compositeur Claude Debussy. On va continuer avec le dernier mouvement, avec le passe-pied, toujours sous les doigts du formidable Nikolai Luganski. Claude Debussy sur Radio G et les ondes de l'autre radio. Vous êtes bien dans Pause Classique et nous entendions le dernier mouvement de sa suite Bergamasque, le passe-pied, interprété par le pianiste russe Nikolai Luganski. C'est un disque qui était sorti en 2018 sous le label Harmonia Mundi dans leur collection Focus. Nous vous présentions Nikolai Luganski en début d'émission. Pour résumer, comme le fait très très souvent France Musique sur leur site internet pour les fiches qu'il dédie aux compositeurs et aux grands interprètes, nous pouvons résumer Nikolai Luganski en six dates. En 1986, il donne son premier récital Salle Tchaïkovski. Le 7 mai, en 1993, il enregistre son premier disque, Les études tableaux de Rachmaninov. En 1994, c'est le second prix au concours international Tchaïkovski. En 1996, la première tournée avec Valéry Gergiev et l'orchestre du Kirov. En 2000, il enregistre les études de Chopin. Et en 2004, il fait une très grande tournée en France. On apprend aussi qu'en 2007, il devient l'assistant de Sergueï Dorensky, que c'est un passionné d'échecs. Il remporte en 2002 le premier prix du championnat d'échecs des musiciens de Moscou. Bref, vous l'aurez compris, un artiste très complet et un artiste absolument merveilleux. Une très grande carrière et une très grande générosité. Lorsqu'il est placé derrière un piano, il offre à chaque fois des interprétations remarquables. On continue notre exploration. Cette fois-ci, on fait un grand bond en arrière. On va partir à l'époque de Maramarais et entendre des très belles pièces pour viol et clavecin C'est Mélissande Corriveau à la viole de gambe et Eric Milnes au clavecin qui nous offrent un album qui sort cette semaine sous le label Atma Classics. Et on en écoute tout de suite quelques extraits. Eric Milneff, il est indiqué dans le livret de cet album consacré aux pièces de Mara Marais qui sort sous le label Atma Classique. Il est précisé eh bien, que Mélissande Corriveau joue une basse de viol Barack Norman de 1691 aimablement prêtée par Michael Colbone et que Eric Milneff joue justement un clavecin flamand Yves Beaupré de fabriqué à Montréal facture de 2016 aimablement prêté par Jacques Marchand. On apprend aussi dans ce livret eh bien, que Mara Marais a longtemps travaillé pour l'Académie royale de musique française et a laissé 4 opéras. Un génie qui est d'abord lié avant tout à la basse de viol. Les Anglais avaient, durant la Renaissance, employé en quelque sorte les viols de gambe dans divers formats. mais ce sont les Français qui consacrent au XVIIe siècle comme soliste de premier plan cet instrument aux sonorités graves, un peu voilées, et qui offre une grande variété de couleurs par l'étendue de ses registres, couvre une gamme infinie de nuances, en particulier grâce à une tenue de l'archet qui permet aux doigts d'entendre plus ou moins le crin. Voilà, c'est un très bel album que nous vous invitons à découvrir. Différentes pièces donc de ce compositeur Maramarais, pièces de viol avec basse continue, essentiellement extrait du quatrième livre des pièces qui ont été réalisées en 1717, un disque qui sort donc sous le label Atma. Cette semaine sort également avec la même maison d'édition chez Atma Classique un album consacré à la musique de Telemann. Telemann avec des pièces réunissant des ouvertures et des concertos. C'est un disque qui réunit Vincent Lauzère à la flûte à bec, Mathieu Lussier au basson, Larion Orchestre Baroque avec à leur direction Mathieu Lussier et Alexandre Weinmann. On apprend dans le livret que la musique de Telemann a été extrêmement prolifique et il aurait écrit un nombre record d'œuvres en moins de 2 ans. C'est sur l'esprit catalyseur que les interprètes veulent insister tout au long de cet album, et c'est ce que nous disent les premières lignes du livret qui nous résume ainsi l'esprit de Telemann. Le regard que pose une époque sur l'œuvre d'un compositeur est immanquablement teinté des critères qu'elle établit comme préalable au génie. Ainsi, une certaine époque a pu voir chez Handel l'apogée de la piété grandiose. Une autre aura admiré Bach pour l'achèvement de son art contrapuntique. Dans le même ordre d'idées, le XVIIIe siècle sut apprécier Georges-Philippe Telemann, 1680-1767, pour son talent aussi éclectique que prolifique, talent que par la suite on se devait de taxer de prolixe. On va donc découvrir tout au long de cet album des pièces connues et méconnues, des concertos pour flûte à bec et basson, ainsi qu'une ouverture originale qui apparemment est gravée ici au disque dans une partition qui a été prêtée. Et d'ailleurs, les interprètes tiennent à remercier le docteur Ian Payne pour l'utilisation de son édition de l'ouverture en sol majeur. Et nous la découvrons immédiatement. La musique de Georges Frédéric Telemann, une ouverture. Nous entendions ici l'Arion Baroque Orchestra placé sous la direction de Mathieu Lussier, un album qui réunit également Vincent Lozère à la flûte à bec et Mathieu Lussier au basson, un album qui sort sous le label Atma Classique et qui consacre donc les concertis et ouvertures de Telemann. On va terminer avec un dernier extrait. On va entendre justement Vincent Lozère et Mathieu Lussier dans le dernier mouvement du concerto pour flûte à bec et basson TWV 52, un dernier mouvement dans un esprit assez vif, un esprit comme disent les Italiens au tempo allegro. Sur Radio G et l'autre radio, nous entendions le dernier mouvement d'un concerto pour flûte à bec et basson de Telemann à l'occasion de la sortie d'un album consacré à ses concertis et ouvertures pour le label Atma Classique et qui réunit Vincent Lozère à la flûte à bec, Mathieu Lussier au basson et les musiciens de l'Arion Orchestre Baroque. On poursuit notre exploration des nouveaux albums avec la sortie cette semaine pour le label La Dolce Volta d'un très bel album issu d'une collaboration entre entre l'altiste français Adrien Lamarca et les musiciens de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, avec à leur tête le brillant chef d'orchestre Christian Arming. C'est un album qui va placer l'alto au centre, qui va placer l'alto dans un rôle de héros autour de trois pièces. Et voici ce que nous dit la note de l'éditeur. Trois grandes pièces pour alto et orchestre composent le nouvel enregistrement de l'altiste Adrien Lamarca aux côtés de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Musicalement, un programme doit narrer une histoire. Ici, l'alto devient le héros central de chaque pièce au sein d'une aventure quasi cinématographique. Un héros qui se promène au cœur de la musique de ballet russe avec Roméo et Juliette de Prokofiev, puis qui va dans le lyrisme de la musique anglaise de l'entre-deux-guerres avec le concerto pour alto et orchestre de Walton. Et enfin, qui s'arrête, qui va littéralement dans une musique scénarisée, une musique d'aujourd'hui écrite par le compositeur belge Genaël Mario Grisi. Il a écrit une pièce intitulée On the Reel sur la bobine, qui est directement écrite à partir d'analyses de scénario. C'est un souffle, c'est de nombreuses passions, de nombreux contrastes qui vont rythmer cet album, dont on découvre deux extraits ce soir. Voici un premier extrait qui consacre donc la musique de Sergei et Prokofiev, un extrait de Roméo et Juliette, une suite pour alto et orchestre.
Thank you.
la musique de Serge Prokofiev, Roméo et Juliette, et l'alto qui est mis en valeur, l'alto d'Adrien Lamarca. C'est un arrangement ici, une suite pour alto et orchestre organisée à partir de la musique de Prokofiev. C'est à l'occasion de la sortie d'un nouvel album qui sort sous le label La Dolce Volta et qui nous permet donc de découvrir une très belle collaboration entre l'altiste français Adrien Lamarca et les musiciens de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, placé sous la direction de Christian Arming. Un disque qui met donc trois compositeurs en avant, trois compositeurs: Serge Prokofiev, le compositeur belge Genaël Mario Grisi et le compositeur anglais William Walton. Trois pièces qui permettent de placer également l'alto au centre des émotions, au centre du rythme, au centre des contrastes, et véritablement un album placé sous le signe héroïque. On écoute un extrait du concerto pour alto et orchestre de William Walton. Thank you. La musique du compositeur anglais Sir William Walton, un extrait de son concerto pour alto et orchestre, le second mouvement vivo et molto preciso. On l'entendait très ciselé sous les doigts de l'altiste français Adrien Lamarca. C'est à l'occasion d'un album qui va sortir prochainement et dont la sortie digitale est déjà disponible depuis le 17 avril dernier, qui permet donc d'entendre une très belle collaboration entre Adrien Lamarca et les musiciens de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, placé sous la direction de Christian Arming. Un disque qui met à l'honneur l'alto dans trois grandes pièces avec trois grands compositeurs que sont Serge Prokofiev, le compositeur anglais William Walton et le compositeur belge Genaël Mario Grisi. Voilà, on termine maintenant l'émission post-classique avec un extrait de musique de film. Nous allons partir dans un film plutôt récent. Nous allons vous laisser découvrir éventuellement le style, le pays ou même le compositeur, si vous arrivez à le reconnaître. Nous sommes dans les crédits de la fin d'un film, les end credits, et nous découvrons cette musique. d'un film anglais et qui est disponible en DVD depuis septembre 2019, un film d'espionnage qui nous permet de découvrir qu'à 80 ans, John Stanley mène une vie tranquille lorsqu'elle est brutalement arrêtée par la police à son domicile et accusée de trahison et espionnage. Forcée à révéler son passé, John se souvient de ses jeunes années pendant lesquelles elle étudie la physique à Cambridge. C'est là qu'elle tombe amoureuse de Léo, un jeune homme d'origine russe étroitement lié au parti communiste. La musique, elle, est signée George Fenton. George Fenton est un compositeur britannique qui est né en 1950 à Londres. Il a entamé sa carrière de musicien à la télévision dans les années 70, où il va composer plusieurs jingles et émissions télévisées devenues populaires outre-Atlantique. Puis il se tourne vers le cinéma au début des années 1980, où il se fait connaître pour son travail sur le film Gandhi en 1982. On lui doit également la musique de La Compagnie des Loups, sortie en 1984, Des Liaisons Dangereuses en 1988, et de The Fisher King, Le Roi Pêcheur, sorti en 1991, ou encore Un Jour sans Fin en 1993. Ses compositions s'inscrivent souvent dans un style élégant, romantique, et vont parfaitement aussi, conviennent parfaitement bien au cadre des reconstitutions historiques. Il a ainsi signé la musique des films Sur la route de Nairobi, de Memphis Belle, La chasse aux sorcières ou encore Dana et le roi. Il a principalement collaboré avec des réalisateurs, Nate Jordan, Stephen Frears, Richard Attenborough, Nora Ephron, et il est le compositeur attitré de Ken Loach depuis plusieurs années. Depuis les années 1990, il concentre beaucoup son travail sur l'environnement et les problèmes écologiques en mettant brillamment en musique bon nombre de films de documentaires, dont La Planète Bleue, sortie en 2003, et Un Jour sur Terre, qui était sorti en 2007, qu'il interprétera d'ailleurs à plusieurs reprises dans le cadre de concerts. Fenton a aussi composé des thèmes et indicatifs musicaux pour quelques programmes de radio et de télévision britanniques, la plupart pour la BBC. Voilà, c'est ainsi que se termine Pause Classique. On se retrouve évidemment dans 15 jours avec toujours plus de musique. Dans un instant sur Radio G, eh bien vous retrouvez King Olivier et Intoxica. Quant au programme de l'autre radio, nous entrons dans les programmes de la nuit. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.
www.radio-g.fr
101.5 FM.